Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi Avraham Avinu, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le père du Ham Israël? C'est quoi dans son travail personnel qui a fait que c'était.
Sa bonté. Sa prise de conscience. Après, la question, c'est est-ce que c'est Hachem qui a choisi que cet homme il devait faire ça, ou est-ce que c'est lui qui, complètement, il a pris la décision de le faire? Moi, je sens.
Non, pas par rapport au fait que Hachem lui a demandé de faire ça ou pas. Je te parle pourquoi il a été choisi pour être lui le père du peuple d'Israël. C'est pas lui qui l'a choisi, ça. Ah, c'est Jérémie, il a dit la bonne réponse. Parce que. Il a été éprouvé. Il a été éprouvé.
Pourquoi Hachem n'a pas éprouvé d'autres?
Pourquoi Hachem n'en a pas éprouvé d'autres? Il en a éprouvé d'autres aussi. Sauf que lui, il a résisté au Nice. Il a surmonté les épreuves. D'accord? La Torah, elle nous dit, il y a un passouk qui nous dit Va Elohim Nissa et Avraham. Donc, Hachem, il a éprouvé Avraham Avinu. Ça, je nous demande. Pourquoi maintenant, quand est-ce que ça a été dit ce passouk? Est-ce que vous savez? Meir. Akeda. Pour les bons juifs qui la lisent tous les matins. D'accord? Tous les matins, on lit la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Là-bas, c'est marqué Va Elohim Nissa et Avraham. D'accord? Pourquoi hein, c'est précisé là-bas que Hachem, il a éprouvé Avraham Avinu? Pourquoi c'est pas précisé dans les autres épreuves? Dans les autres Nisyonot? Pourquoi dans la Akeda? Donc, pourquoi on nous a précisé là-bas? Nous dit Rabbi Yossé, dans le Midrash, pour ceux qui veulent aller voir, Midrash Rabba, Parashat Nunhe, Saif, Siman Vav. Ouais. Il nous dit. Pourquoi c'est marqué Ve'Elokim Nissa et Avraham, et Hachem a éprouvé Avraham pour mettre comme cet étendard qu'on pose en haut du mât du bateau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris l'histoire?
Ouais, c'est pour donner, c'est pour exemple. L'exemple.
Vous savez comment on dit un étendard? Un drapeau. Comment? Ouais. Ça, c'est une des manières de dire. La deuxième manière de dire, c'est Ness. Un drapeau, c'est Ness. D'accord? Un étendard, en hébreu, ça se dit Ness. Donc, Ve'Elokim Nissa, Rabbi Yossé, c'est le même mot que Ness.
Ness veut dire miracle aussi, non?
Ça veut aussi dire miracle. Il explique de quoi on parle, que à travers cette épreuve, Avraham Avinu, il va être mis en étendard comme étant le père de la nation d'Israël. C'est lui qui va devenir le drapeau. C'est Avraham Avinu qui devient le drapeau. C'est quoi un drapeau? C'est notre référence. D'accord? Quand on demande à des gens, voilà, tu vas on va dire, dans une guerre. Tu as deux nations qui s'affrontent, tu sais où tu te trouves en fonction de où il est le drapeau de ton pays, d'accord? C'est ta référence. Où tu te trouves, c'est ton pays. Partout où tu vas, tu vois des drapeaux français pour les Français, ils savent qu'ils sont chez eux. D'accord? C'est ta référence, c'est ça. Je suis un Français, je m'attribue à ce drapeau. Je m'attache à ça, c'est ça ma référence. C'est ça mon pays, c'est ça ma source. Alors, pareil pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, on va le mettre. Le drapeau qui est sur ce bateau. Ce bateau, c'est l'Am Israël. C'est lui le drapeau. C'est lui le représentant du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on l'a éprouvé avec la Akedat Yitzhak. Et alors? Et alors?
C'était l'épreuve la plus difficile pour lui.
En quoi c'était l'épreuve la plus difficile pour lui?
C'est renoncer à tout ce qu'on lui a promis.
Toutes les épreuves qu'il y a eu.
C'est quoi l'épreuve la plus difficile? Pourquoi c'est une épreuve difficile à Akedat Yitzhak? Parce qu'il faut égorger son fils? De chasser Ishmaël aussi, c'était dur, non?
Il a eu du mal à avoir cette.
Chasser Ishmaël aussi, il a eu du mal à avoir Ishmaël. Ishmaël aussi, il aimait Ishmaël. Il a expulsé Ishmaël de sa maison.
Ça, c'est les pas de ce pays, là-bas dans l'autre truc, tu auras un fils, ça l'a.
Et il a eu un fils, il a eu Ishmaël. Il a eu Ishmaël.
Ouais. Ça, alors qu'il arrive à la famine.
Ok, mais ça n'a rien à voir avec la Akeda. Ça, le fait qu'il y ait la famine, c'était déjà une épreuve. Maintenant, pourquoi c'est l'épreuve de la Akeda?
Ishmaël, il n'est pas aussi particulièrement, parce qu'il dit dans le verset, ton fils, celui que tu aimes.
Eh oui, et pourquoi c'est répété? À quoi ça sert de répéter? Si c'est déjà ton fils que tu aimes, il sait très bien que c'est Yitzhak, s'il aime que Yitzhak. Pourquoi on a besoin de lui dire Yitzhak?
Parce qu'un père,
Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit comme ça, quand il lui a dit, tu prends ton fils. Hachem, il lui a dit, Avraham Avinu, il lui a dit, mais j'en ai deux. Il lui dit, celui que tu aimes. Il lui dit, je les aime autant les deux. Yitzhak.
Et pourquoi il lui a pas dit alors Yitzhak au début?
Hein?
Celui que tu aimes, ton fils, celui que tu aimes.
Ah, ça, c'est pour nous apprendre des choses, que quoi que Béhémet, il aimait autant Ishmaël.
Mais dans Israël.
Un juif ne peut arriver à son niveau le plus haut, le plus élevé, qu'à travers des épreuves. Qu'à travers des épreuves. On ne peut pas s'élever si on ne vit pas dans l'épreuve. Quelle est la première épreuve de l'humanité?
Travailler la surdose.
Non, du tout, c'est pas une épreuve. C'est une malédiction. C'est, tu toucheras pas de cette arme. Quand Hachem, il a ordonné à Adam Arishon, tu ne toucheras pas de cet arbre. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là.
C'est une malédiction.
Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. C'est la première épreuve. Pourquoi Hachem, il a créé Adam Arishon, il le met dans un Gan, dans un jardin, le Gan Eden. Là-bas, il y a tous les fruits qu'il veut manger. Ce que tu veux, tu manges. Il y a tout pour toi, ça pousse tout seul. Il n'y a pas de mauvaise herbe, tu n'as pas besoin de remuer la terre, tu n'as pas besoin de travailler, tu as besoin. Tu vas, tu ramasses. Tu veux une pomme, tu prends une pomme. Tu veux du raisin, tu prends du raisin. Tu veux ça, tu prends ça. Il n'y a rien besoin de faire. Pourquoi Hachem, il lui met un arbre au milieu et il lui dit, celui-là, tu ne manges pas.
C'est justement pour ça, parce que s'il n'avait pas mis cet arbre, la maréchale, il n'aurait aucune raison d'être au Gan Eden. Et il n'aurait pas mérité sa place au Gan Eden.
S'il n'avait aucune raison d'être au Gan Eden, ou est-ce qu'il n'aurait pas pu s'élever encore plus que son niveau? Être une raison au Gan Eden, il y est déjà.
Oui, mais il y est déjà, justement.
Là, mais il n'y a pas encore l'arbre.
C'est quoi son mérite d'être au Gan
Eden? Il n'y a pas encore interdit.
C'est de respecter cette mise.
Non, son mérite d'être au Gan Eden, c'est parce que c'est lui le but de l'humanité. Maintenant, pourquoi il doit avoir un arbre?
Pour avoir plus de mérite.
Pour avoir plus de mérite. Pour grandir encore plus. Que si tu résistes à cette tentation, tu vas t'élever encore plus. La deuxième épreuve, c'est laquelle? C'est Caïn et Hevel. C'est Caïn et Hevel. Ouais. Caïn, il voit son frère qui amène un sacrifice. Lui, il amène un sacrifice de plantes, de végétaux pour Hachem. Et son frère, il amène des animaux. Et Hachem, il préfère le sacrifice de Hevel. Il y a un grand Nissayon pour Caïn maintenant. L'épreuve de la jalousie. Maintenant, Hachem, il savait pas. Pourquoi Hachem, il accepte pas celui de Caïn? Pourquoi Hachem refuse celui de Caïn? Il sait très bien qu'en refusant celui de Caïn, il va créer chez Caïn une jalousie.
Une épreuve.
Une épreuve. Et ainsi de suite. Avraham Avinu, Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, il en a plein des épreuves. Pourquoi il faut que ses frères soient jaloux? Pourquoi ils doivent être jaloux? Pourquoi lui, il doit être tenté de dire du lashon hara sur ses frères? Pourquoi il y a des épreuves? Parce qu'à travers l'épreuve, c'est comme ça que tu grandis. Sans épreuve, tu ne pourrais pas grandir. Sans épreuve, tu ne pourrais pas t'élever vers Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va voir. Quand un juif, il se travaille pour surmonter une épreuve qu'on lui envoie, alors à ce moment-là, il est autant élevé que ce drapeau qui est en dessus du qui est en haut du bateau. Qui est en haut du bateau. Pourquoi? Parce que tu es au maximum de tes capacités. Maintenant, tu as monté d'un cran. Tu t'es surpassé. Tu as surpassé toutes tes forces. Tu as surpassé toute ta connaissance. Tu as tout surpassé. Tu as une épreuve et cette épreuve, tu as une tentation et tu te surpasses. Tu as mis de gaber là-dessus. Tu t'élèves encore plus haut. D'accord? On va voir le Ramban, il dit comme ça, je vais vous lire les mots du Ramban. Il dit comme ça, et ne crois pas que le niveau de Avraham Avinu, pourquoi il a été choisi devant Hachem, c'est parce qu'il a fait de la Torah. C'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il a appliqué la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que ça, n'importe qui l'aurait pu le faire à sa place. Il aurait pu avoir d'autres Bnei Israël, après lui-même, qui auraient fait ces mitzvot-là. Et on les aurait pas considérés. On n'a pas considéré. On n'a jamais vu des gens qui ont fait toute la Torah. Il y a eu des gens qui ont fait toute la Torah, autre qu'Avraham Avinu. Il y a eu d'autres. Maintenant, pourquoi Avraham Avinu, tu me dis, c'est lui l'étendard du bateau. Pourquoi c'est lui? Il nous dit pourquoi. Aval hibbato hayeta lifna makom lefi she'amad ba'asara nisyonot. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé, il a surmonté les 10 épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyées. Sans remettre une seule fois en question Akadosh Baruch Hu, ni sa foi, ni ses mitzvot, ni ses midot, rien du tout. Il a tout surmonté. C'est également en vérité ce qui est dit dans Pirkei Avot. C'est marqué que la chiba de Avraham Avinu, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a porté à Avraham Avinu, il venait du fait que Avraham Avinu il a surmonté les 10 nisyonot. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le fait que j'ai un nisayon, c'est ça qui me fait m'élever. Pour comprendre c'est quoi le nisayon de la Akedat Yitzhak, on va essayer de se remettre dans le bain entre guillemets. La Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, il enseigne au monde entier depuis qu'il a Avraham Avinu, on va dire le combattant de Dieu, sur terre, le combattant du monothéisme. Tu te rends compte, se battre contre des milliers de Avda Avodazara. Quelle sroute. Il marche tout seul à contre-courant. D'accord. Aujourd'hui, nous on dit, si je peux pas aller au cinéma avec les copains de la classe du lycée, ça le fait pas quand même. Ils vont dire encore c'est juif. Azma. Et alors? Avraham Avinu, il a été prêt à se faire jeter dans le feu. Toi, tu n'as pas envie d'aller au cinéma. Tu as peur de ne pas aller au cinéma. Avraham Avinu, c'est quoi son nisayon? Il a marché seul, à contre-courant, face au monde entier. Et il s'est battu notamment contre une chose très très grave, d'après la Torah, qui est une abomination devant Hachem. C'est le sacrifice humain. De sacrifier des êtres humains à des divinités. Hachem a horreur du sacrifice humain. Horreur de ça. Pas juste un peu, il n'aime pas, c'est une abomination. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, c'est une abomination, à tel point que si un juif s'amuserait à sacrifier son fils pour une idole, puisqu'Hachem ne demande pas ça, alors le juif il va dire, entre autres, celle qui est ramenée dans la Torah, c'est l'idole de Moloch, d'accord, la Molech. Que quoi, c'est quoi? On prend un fils, ses enfants, on met deux feux énormes, là une plaque métallique au milieu, et on fait passer l'enfant au milieu du feu. S'il arrive au bout, mais s'il n'arrive pas, d'accord, quand il est grand comme ça. Ça, tous, ils mouraient. Et c'était ça le sacrifice pour leur idole. La Torah, elle dit que si jamais cet homme, un juif, il fait une chose pareille, alors Hachem, il le punira à lui, toute sa famille, et tous les gens qui ont été au courant qui l'ont pas assassiné.
Pourquoi toute sa famille?
Pourquoi? Parce que Mistama qui sont avec lui. C'est-à-dire... Ils sont d'accord avec lui. Tous ceux qui étaient d'accord avec lui, en tout cas, ils vont tous passer. Et même là-bas, il y a des drachotes que même, non seulement il va être puni ici, vous allez le tuer, mais en plus Hachem, il le tuera. Et quand il va le tuer? S'il est déjà mort, là-haut, c'est fini. Non seulement il va payer dans ce monde-ci, mais en plus il va payer là-haut. Alors que normalement, quand on est condamné à mort, ça y est, c'est bon, on a payé ici, on ne paye plus après. D'accord? Pourquoi ça ne sert à rien de mourir. Mais lui, non. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. Tu sacrifieras pas un être humain. Donc le Nissayon d'Avraham Avinu Rabotai. Lui qui s'est battu contre l'humanité entière, ne sacrifiez pas vos enfants. Interdiction de sacrifier des enfants, interdiction de sacrifier des êtres humains. La avodat Hashem, c'est pas ça. Servir Hashem, c'est pas ça. Hashem, maintenant, il vient et lui dit, tu sais quoi? Tu sais comment toi, tu vas me servir? Tu vas prendre ton fils, tu vas le faire monter sur l'autel.
Mais si c'est une abomination, pourquoi lui a dit ça?
Hein? Il a dit monter sur l'autel.
Alors, si c'est une abomination, si c'est une abomination devant Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu lui ordonne ça? Tu comprends l'épreuve maintenant?
Voilà, voilà.
Atkama, elle était dure.
Mais déjà,
alors maintenant.
On dit qu'on lui a dit de faire comme un Corbanola. On lui a pas dit de faire un Corbanola.
Non, c'est marqué que vers Léo Lérola. Ça, c'est la réponse. Comment Hachem il a pu mentir à Avraham? On dit, il lui a pas menti.
Il lui a dit de faire comme un Corbanola.
Non, il a pas dit de faire comme un Corbanola. Et il lui a dit, tu me le monteras en sacrifice, en Ola.
Pas Ola. Il a dit Léola.
Mais c'est ça.
Ouais, mais Léo, là,
mais c'est comme ça marqué dans toute la Torah quand on parle du sacrifice.
Ah, on avait tué avec Rofkani, on avait vu qu'il n'était pas obligé. Bon.
Il était obligé, juste lui, comment? C'est pour répondre à la question, hein, Avraham Avinu, comment Hachem il a pu lui dire de faire un sacrifice et finalement il lui dit non. Ah, tu lui as menti? Il dit non, je t'ai pas menti, moi je t'ai dit de le mettre sur l'autel. Toi tu as compris qu'il fallait le tuer. Mais moi je t'ai jamais dit qu'il fallait le tuer. D'accord? Maintenant, en vérité, l'ordre c'était quoi? C'était oui de le tuer. Mais Hachem il a pas prononcé ces mots-là. Hachem lui a pas prononcé ces mots-là. C'était quoi? C'était une épreuve. C'était une épreuve, ouais.
Il lui a dit sacrifice.
Il a pas dit sacrifice, c'est bien ça. Il lui a pas dit sacrifice. Il lui a pas dit sacrifice. Il lui a dit, tu me l'offriras sur l'autel.
Ouais, mais quand on comprend ça, ça veut dire qu'il faut sacrifier.
Ok, mais il lui a pas dit le mot de
sacrifice.
Automatiquement. Mais c'est ça l'épreuve.
Ah, il a compris ça.
C'est ça l'épreuve. Rabotaille. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, elle était là. C'est que toi, maintenant, Avraham Avinu, tu te retrouves, que tu sais que c'est une abomination, et Hachem, il t'ordonne de faire une abomination. Ça va contre toute ta Hashkafa. Ça va contre toute ta Torah que tu as appris. Ça va contre toute ta vie. Puisque c'est ça ta vie. Tu t'es battu contre ça toute ta vie. D'accord? Il y a des gens, ils ont un but dans la vie, tu leur enlèves le but, ça y est, c'est des dépressifs. D'accord, c'est des dépressifs, ils font une dépression nerveuse, ils finissent à l'asile. Ouais. Toi, tu as un but, Avraham Avinu, c'est ça. Tu t'es battu toute ta vie contre les gens qui font ça. Et on te dit, sois des leurs maintenant. Et c'est moi, Hachem, qui t'ordonne. Le Nissayon, il est énorme. Elle est où ta Emouna maintenant? Tu crois au Dieu qui t'a interdit ou tu crois au Dieu qui t'a ordonné? Ça s'appelle un Nissayon. Pas un petit Nissayon. Un sacré Nissayon. Avec nous, quand on a un peu des Nissayonotes dans la vie, ça y est. Il est où Hachem? Il est où Hachem? Il était où? Mais pourquoi j'étais à l'hôpital 3 jours? Pour faire une prise de sang. Ça arrive à tout le monde de faire des prises de sang. Ouais. Avraham Avinu, on lui a dit, tu sais quoi? Tchata Emouna, je vais te montrer le contraire et c'est celle-là la vraie. Mais c'est quand même une abomination, attention. Maintenant, on comprend le Nissayon d'Avraham Avinu. Est-ce que je vais écouter Hachem ou je vais pas l'écouter?
Il devait s'annuler.
Hein?
Il devait s'annuler.
Alors, on va voir. C'est quoi maintenant? Yosef Hatzadik, la même chose. Il se retrouve dans un trou. Il est ici, il est là. C'est quoi qui fait que Yosef Hatzadik, ça va devenir Yosef Hatzadik? Qu'il a tenu dans le Nissayon. Il a tenu, l'Aziz, il s'est retrouvé avec la plus belle femme au monde, dans une chambre, enfermée. Elle est nue, elle attrape, elle lui dit saute-moi dessus, et il s'en va en courant. Ah, dis-moi.
Et il prend de la prison.
Et il va en prison, il accepte d'aller en prison pour ça, et machin, il se rebelle pas, je suis fier d'aller en prison, je suis heureux d'aller en prison. D'accord? Et tous les jours, pardonnez-moi le mot, elle a allumé. D'accord? Pendant toutes ces années, Yosef, il vit avec elle du matin au soir, et tout le temps, elle le chauffe. Et avec ça, il résiste. D'accord, nous on serait mort enterré déjà, ouais. Hein, maintenant, Youssef Hatzadik, lui non, il a dit je meurs. Il a comme tué. Il a comme tué, mais je faute pas avec cette femme. Mais je faute pas avec cette femme. Et il va en prison, etc. Il est maltraité, etc. Et qui devient Youssef Hatzadik? Le roi d'Égypte. Il devient le roi d'Égypte. Grâce à quoi? Grâce à ça. Ses frères, ils viennent, ils se prosternent devant lui. Grâce au fait qu'il a surmonté le Nisayon.
Même en étant roi, il a un
Nisayon. Il a encore des Nisayonotes, il a plein de Nisayonotes encore.
Il a entouré des plus belles femmes d'Égypte.
Ouais, il a plein de Nisayonotes, mais maintenant, il tient. Pourquoi, Rabotaï? On va essayer de comprendre. Il reste plus beaucoup de temps. Que fait un Nisayon en vérité? Dans cette épreuve, on voit. Dans l'épreuve d'Avraham Avinu, on comprend. C'est quoi un Nisayon? Un Nisayon, c'est quoi une épreuve? C'est qu'on va te faire oublier, on va te mettre dans une situation où tu ne vois plus rien de manière claire. Il n'y a plus rien qui est clair. Tu es face à un problème maintenant. Il y a un hic ici. Il y a un problème. D'accord? On m'a dit, viens à la yeshiva, tu vas étudier la Torah. D'accord? Et tu vas devenir un bon juif, tu vas avancer, tu vas ci, tu vas ça. Tu vas être heureux, tu vas avoir plein de bonnes choses, c'est marqué dans la Torah. Si tu fais la Torah, tu as plein de bénédictions, tu as tout ce qu'il faut. Et maintenant, toi, tu viens à la yeshiva, tu étudies ta Torah, et non seulement tu croyais que c'était facile, mais quand tu te frappes un tosfot, eh ben, tu en prends plein les dents. Le rav, il t'envoie balader. Les copains, n'en parlons pas. Les machins, les ci, les ça. Les épreuves, elles commencent aussi. Comme tu arrives à la yeshiva, tu fais tshuva, tu arrives à la yeshiva, d'un coup, tu sais pas pourquoi. Tes parents, ils t'appellent, oui, il y a ça comme problème, il faut que tu viennes nous aider, il y a ci, il y a ça. Celui-là, c'est ça, l'autre, c'est sa copine qui l'appelle, l'autre, c'est celui-là, l'autre, c'est... D'un coup, il y a tous les problèmes du monde qui tombent. Makara, et d'un coup, tu vois plus rien. Tu vois plus clair. Tu vois plus clair, d'accord? Pourquoi? C'est ça le Nisayon. On va te mettre un voile. Tu pourras plus voir clairement. Tu vas te retrouver où on va anéantir même ta réflexion. Dans une situation où ta réflexion, où tu étais bien, tu savais réfléchir par toi-même, en théorie c'était très joli. Ah mais s'il m'arrive ça, je sais que c'est pour ça, ta 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 ta. D'un coup quand ça t'arrive, tu réfléchis plus comme quand tu l'as lu dans le livre. D'accord? Quand ça t'arrive d'un coup, tu perds les pédales. Ça, ça s'appelle un Nisayon. Et tu es dans la difficulté. Hein?
Avraham, il n'a pas flanché.
Et Avraham, il n'a pas flanché. Même si je ne vois plus, Hachem m'a ordonné, je ne comprends plus rien. Je ne sais plus ce que veut Hachem. Mais il m'a ordonné une chose maintenant, c'est lui qui m'a parlé maintenant, il m'a ordonné une chose, j'applique, c'est tout. Je ne bronche pas de ce que m'ordonne Hachem. Il y a une histoire comme ça, dans la Guémara, pas de questions sur cette histoire. D'accord? Que ce soit clair, je veux aucune question parce que j'y répondrai pas. Donc maintenant, il y a une histoire dans la Guémara qu'il y a, je ne me rappelle plus c'était qui les sages, je sais qu'un d'entre eux c'était Rabbi Akiva. Ils sont quatre si je me souviens bien, et ils sont montés très haut de leur vivant dans l'univers céleste, on va dire, en étudiant, ils sont montés très très haut. Ils sont montés tellement haut qu'ils ont vu l'ange le plus puissant de toute la création d'Hachem. Et cet ange-là, dans la Guémara, il appelle Akatrikel. D'accord? Maintenant, c'est l'ange, j'ai dit pas de questions. Non, j'ai dit pas de questions. Non, c'est l'ange. Je sais pas ce que ça veut dire, alors je veux pas que vous me posiez des questions. Qui représente le plus Hachem dans ce monde? D'accord? Maintenant, arrive Rabbi Akiva et les trois autres Tanaïm en face de cet ange-là. Et d'un coup, ils ne comprennent plus rien. Ils voient la Shrina d'Hachem ici. Et ils voient l'ange ici. Ils disent c'est la même chose. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a un problème là. Il y en a deux ou il n'y en a qu'un? On comprend plus rien. Les trois autres, je crois qu'il y en a un qui est mort. L'autre, il est devenu fou. Moi, je sais plus. Les trois, ils ne sont pas sortis normaux de cette histoire-là. Le seul qui est sorti normal, qui c'est? Rabbi Akiva. Il a vu ça. Il a dit, je comprends plus rien maintenant. Aval, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem c'est notre Dieu, Hashem est un. Et boum, lui il est revenu, c'est le seul qui est resté normal. Maintenant, nous on n'a pas des épreuves aussi grandes que ça, d'accord ? Des fois on nous montre, on nous sort un petit os de, un os de mammouth, là on nous dit « Ah, la Terre elle a 300 millions d'années, hein, c'est très rigolo. » Ouais, ça va, ça n'a rien à voir avec ces épreuves-là. Ça n'a rien à voir avec Hachem qui te dit deux ordres contraires. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Et eux, ils ont tenu. Pourquoi ? À ce moment-là, moi, ma tête, elle ne comprend plus rien. Mais je sais que j'ai un Dieu qui m'a ordonné une chose. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouais. Nos sages nous disent, comme ça, la demande de Slonim, il dit, c'est pour ça que c'est marqué Va Elokim Nissa et Avraham. Pourquoi c'est pas marqué Va Hashem Nissa et Avraham? Pourquoi c'est pas marqué Hashem a éprouvé Avraham? C'est marqué Elokim a éprouvé Avraham. C'est quoi Elokim? Souvent on répète, c'est la rigueur d'Hashem. Ouais, le din, la rigueur, la puissance, la rigueur. Non, c'est quoi la définition du din? C'est plus que la droiture. C'est quoi la droiture est une conséquence. Est une conséquence. La justice est une conséquence.
La loi. Des règles.
On va me donner des traductions. Je veux une définition.
Impartialité.
C'est quoi impartialité? C'est une conséquence.
T'as la récompense ou t'as...
C'est une conséquence. Le din, c'est la restriction par excellence. C'est une restriction. C'est ça, la rigueur. Il n'y a pas de cadeau. Si tu mérites, tu reçois. Si tu ne mérites pas, on est complètement restreint à tout don. Il n'y a pas de don. Ça, c'est le din. Que fait ? C'est qui éprouve ? C'est la midata din d'Hachem. Pourquoi ? Maintenant, je t'enlève tous ces sentiments-là d'amour que tu avais pour moi. Toute cette certitude que tu avais dans ta Torah, toute cette réussite que tu avais dans ta vie, je te l'enlève totalement parce que tu ne la mérites pas. Et maintenant, montre-moi qui tu es.
Il a dû se dire que je suis fou.
Toi, tu vas montrer. Quelqu'un, il peut devenir schizophrène. Hein.
Mais il a dû se dire
quelqu'un, il devient schizophrène, je vous garantis. Il peut devenir schizophrène, un type.
Il a dû se dire ça toute ma vie, et c'est n'importe quoi.
Ouais. Et c'est pour ça que des fois on voit des gens, malheureusement, ils deviennent schizophrènes à travers la Torah. Ils étaient normaux avant d'entrer dans la Torah. Une fois qu'ils rentrent dans la Torah, ils deviennent schizo. Pour de bon, mais des vrais, pas des semblants. Hein.
Ça, c'est pourquoi, ça,
pourquoi? Parce que d'un coup, ils s'aperçoivent que qui je suis, d'où je suis, qu'est-ce que je fais. Un coup, je suis bien, un coup, je suis pas bien, un coup, je suis ci, un coup, je suis ça. Imagine, on te met la même épreuve qu'on a mis à Avraham Avinu. On te dit là, c'est blanc et maintenant, c'est noir en vérité. Et c'est le même Dieu qui t'ordonne. Et ça remet en cause toute ta vie.
C'est ça qu'il ne faut pas monter d'un coup. Petit à petit, parce qu'après on peut monter sans d'un coup.
Entre autres. Maintenant, là le Nisayon, il est terrible, Rabotai. Il est terrible. Maintenant, donc c'est Elohim. Ça veut dire, je t'enlève tout. Tu ne vas plus comprendre, il est où l'amour que j'ai pour toi, ni l'amour que tu as pour moi. D'accord ? Hachem, il dit comme ça, Avraham Avinu. Tu vas plus rien comprendre. Tu es dépourvu, on va dire, d'armes pour te défendre. La seule chose qui reste, c'est toi, dans ta petitesse et dans ton absence de repères. La pire des choses qui peut y arriver à un homme, nos sages nous disent, c'est d'être en doute, de douter, de ne plus avoir de repères. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Ça, c'est le plus grand des Nisayon. Le doute, c'est la pire des choses. C'est pour ça que le mot doute en hébreu, ça se dit safek. C'est la gématria de Amalek. D'accord ? Quand il y a le safek, Amalek il commence à rentrer.
Et comment il a fait avoir une vidéo pour ne pas avoir un doute ? Comment il a fait ? Ça, c'est pas de Dieu.
Il a forcément eu un problème maintenant. Il s'est forcément retrouvé à un doute, mais il a dit maintenant, c'est pas mon problème. Hachem il m'a ordonné quelque chose. Même si ça remet tout en question, c'est ça qu'il m'a ordonné, je fais. On voit maintenant nos sages, ils nous ont dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, Perekehe Mishnah Tet Zayin, Kol Ahava She'iteluya Badavar, Batel Davar Betela Ahava. Un amour qui dépend d'une chose extérieure, si cette chose-là disparaît, l'amour disparaît. D'accord ? Par exemple, on va dire quelqu'un qui... On va prendre l'exemple de base. Quelqu'un qui aime une femme que parce qu'elle est belle, quand elle aura 50 ans, il divorce. Ouais, pour ceux qui font pas des lifting et des machins, alors ça sera avant. D'accord ? Parce que déjà à 25 ans, elle est plus la même qu'à 18 ans. Et à 30 ans, elle est plus la même qu'à 25 ans. Et si en plus elle a eu 2-3 grossesses, alors c'est fini. D'accord ? Elle fait déjà 4 tours de taille de plus. OK ? À ce moment, s'il a épousé que parce qu'elle était belle, alors une fois que la beauté a disparu, l'amour n'existe plus. Mais nos sages nous disent Veshena teluya badavar. Par contre, un amour qui ne dépend pas d'une chose extérieure, Ena betela leolam. Jamais tu pourras l'annuler, cet amour-là. C'est pour ça qu'on voit des vieux couples qui ont 60 ans. J'adore regarder, je vous promets, j'adore regarder les petits vieux. Les couples de petits vieux qui s'aiment. Ils sont magnifiques. Ils sont splendides. Oui, qui s'aiment. Pas ceux qui se tapent la tête, d'accord ? Pas ceux qui s'arrachent la tête du matin au soir parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Non, on parle des gens qui s'aiment. Tu les vois, rien qu'ils se regardent, ils n'ont pas besoin de parler. Ils se font un sourire, tu les vois, presque ils ont envie de pleurer. Non, mais Bémet, tu vois, tu les vois, ils sont comme ça. Moi, je me rappelle mon grand-père. Quand ma grand-mère, elle est niftera, zirchona livracha, 2 ans, il est resté vivant après ça. Pas un jour de sa vie, je ne l'ai pas vu pleurer. Tous les jours, on allait le voir, il pleurait. Du matin au soir, du soir au matin. 2 ans, il a pleuré. Jusqu'à ce qu'il s'est laissé mourir. Ouais. Je connais des gens très proches de ma famille. La maman, elle est niftera. Le père, il est niftar le lendemain. Ouais. Il a enterré sa femme. Il a enterré sa femme. C'était un vieux monsieur déjà. Il a enterré sa femme. Il est allé voir la dernière fille qui lui restait à la maison. Il lui a dit adieu. Il est allé se coucher. Il est mort. Il savait qu'il allait partir. Je peux plus vivre. Un amour comme ça, il peut pas être annulé que par la mort. Il n'y a plus que la mort qui peut annuler cet amour. Il n'y a plus que la mort qui peut le supprimer. C'est un amour qui ne dépendait pas de la beauté. Parce qu'à 70 ans... Le steak, il est un peu grillé aussi. Hein. Il est cuit, il est ce que vous voulez. Grillé, il est fripé, il est... D'accord ?
Comment on peut la Torah comme...
Alors, ça, c'est le Nisayon. Ça, c'est le Nisayon. Akadosh Baruch Hu, il vient et dit à Abraham, il dit à tous les gens qui l'envoient d'initionnote, tant que tu as des choses extérieures qui te font m'aimer, tu réussis, qui te font aimer moi. Ah. Ok, pas m'aimer. Qui te font aimer. D'accord ? Tant qu'il y a des choses extérieures qui te font m'aimer, tu es la star du monde, Avraham Avinu. Tu es celui qui se bat pour Hachem. Tu as ton honneur. Je t'ai mis à la tête. Tout le monde tremble devant toi. Les gens qui viennent te voir, ils sont bénis du matin au soir. Rien qu'y ramasser une, c'est marqué dans le Midrash, y ramasser une prouta, donc quelques centimes. Qu'Avram Avinu leur avait donné en tzedaka, il devenait riche. Avec ses quelques centimes, ça lui donnait la richesse. D'accord ? Le malade, il voyait Avram Avinu, il guérissait. Ah. Ça va ? Ça marche bien l'entreprise pour toi. Il y a tout qui marche super bien. D'accord ? Toi, tu viens à la yeshiva, tu étudies, il y a tout qui marche bien. Tu comprends tout, tu montes de chiour, tu avances. Il y a tout qui marche bien, c'est super. Tu trouves ta femme, tu as des enfants, tout le monde en bonne santé, il y a tout qui va bien. C'est génial. Mais est-ce que tu aimes Hachem vraiment parce que tu aimes Hachem? Ou est-ce que tu aimes Hachem parce qu'il t'a gâté comme un fils gâté? Attends. Maintenant, c'est quoi qui va faire en sorte que tu vas prouver réellement ton amour pour Akadosh Baruch Hu? C'est quand Hachem, il va t'envoyer une épreuve et il t'enlève ta clairvoyance. Il t'enlève tout ce bonheur. Il t'enlève tout ça. Pas qu'il veut te faire souffrir, Chas v'shalom. Il va pas t'enlever ton fils ou quoi que ce soit. Chas v'shalom, c'est pas ça qu'on dit. On ne demande pas des épreuves et on veut pas les connaître, d'accord ? Mais c'est quoi, hein ? C'est maintenant, il va te mettre dans le doute. Mais je comprends pas, je fais la Torah, j'avance pas, je fais ci, je fais ça. Je m'éprouve, c'est marqué que si on se casse la tête pour comprendre la Torah, on va la comprendre.
Ça le mérite.
D'accord, mais moi je me casse la tête Et le lendemain, j'ai oublié tout ce que j'ai étudié. Pourquoi ? Pourquoi moi, je suis pas comme les autres ? Et d'un coup, tu vas commencer à avoir des doutes. Tu vas commencer à te poser des questions. Et pourquoi j'ai pas ma parnassa comme tout le monde ? Je devrais avoir ma parnassa ? Hachem, il a dit, si tu étudies la Torah, d'accord, t'inquiète pas, c'est moi, je t'envoie. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Si tu prends sur toi vraiment d'étudier la Torah, il n'y a pas besoin. C'est moi, je te donne ta parnassa. D'accord ? Ah maintenant, lui, il étudie la Torah, et la parnassa, elle ne tombe pas. Il va commencer à dire, et si j'étais videur de boîte à Paris, combien je toucherais à la fin du mois ? Et si j'avais épousé Christine, elle ne me prendrait pas la tête comme Sarah. D'accord ? Elle dirait, moi aussi, je veux faire le céder de Pessah comme il faut, etc., etc., t'inquiète pas. Elle t'envoie au Géina. Ouais. Et maintenant, donc il te met un Nisayon terrible, il te met des Nisayon, il va te mettre dans le doute. Si maintenant, on va voir, est-ce que tu aimes vraiment Hachem parce que tu aimais Hachem ou par tout le folklore qu'il y avait autour. Ça, c'est le Nisayon. Et Avraham Avinu, il a dit, enlève tout. Je reste avec toi. Je reste avec toi. Je m'en fiche. Enlève tout. Mon amour pour toi, il dépend pas de tout ce que tu m'as béni. Rien de tout ça, ça m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, c'est faire ta volonté. Même si maintenant tu m'as mis un doute. Il y a une histoire comme ça, je me rappelle plus d'où on a la source. Mais une histoire, je crois que c'était un gour. Un chassid de gour. Un chassid de gour. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un rave très connu, son nom, je ne me rappelle plus. Il avait 11 enfants. Il avait 11 enfants. Il était marié, il avait 11 enfants. Les nazis, ils les ont pris, ils les ont mis au camp. Ils ont pris ses enfants, ils les ont tués. Ils ont pris sa femme, ils l'ont tué. Et à la fin, vous savez, les nazis faisaient des expériences sur les corps des Bnei Israël vivants pour voir à combien un homme il peut résister à la douleur. Comment un être humain peut résister, jusqu'à combien on peut résister à la douleur avant de mourir. Il voulait faire des expériences. Alors ils l'ont pris à lui pour faire les expériences et ils l'ont mis dans un bain d'acide. D'accord ? Entier. Et ils l'ont descendu, ils l'ont attaché comme ça, ils l'ont descendu. Et c'est lui-même qui raconte qu'à ce moment-là, il a fait une prière à Hachem et il a dit comme ça. Hachem, tu m'avais donné des enfants, tu me les as demandés, je te les ai rendus. Tu m'avais donné une femme, tu me l'as demandé, je te l'ai rendu. Tu m'avais donné une maison, tu me l'as demandé, je te l'ai rendu. Tu m'as donné un corps, tu me le demandes, je te le rends. Mais mon amour pour toi, je te le donne pas, je le garde. Alors me fais pas souffrir, Atke Dekar, que je vais être obligé de le lâcher. À ce moment-là, les nazis, tac, ils ont appuyé sur le bouton, ils ont remonté la chaîne, ils l'ont sorti.
Pourquoi ?
D'accord.
Hein ? La raison de qu'ils ont eu,
je sais pas, aucune raison. Puis Tom, ils ont décidé de le sortir du bain d'acide. Il est retourné en Israël, il s'est remarié, et il a de nouveau eu 11 enfants.
Wow.
Ouais. Maintenant.
Il est cool, c'est ça, lui.
Qu'est-ce qu'il a fait maintenant ?
C'est
qu'est-ce qu'il a fait sur Rav ? Il a dit à Hachem, prends. Maintenant, moi, je suis dans un safek terrible. Comment tu peux avoir un safek plus grand que ça ? On va maintenant prendre ton corps, on va le dissoudre. Et toi, tu es vivant. Hein? C'est pas que tu es mort. Il a dit, Hachem, je suis prêt à te le donner. Prends-le. Mais ne me fais pas souffrir d'une manière où je vais être obligé, à cause de la douleur, je risque d'en arriver à plus t'aimer. Ça, je ne veux pas te donner ça. Ça, je ne te donnerai pas mon amour que j'ai pour toi. Il n'a plus rien, ce rave. Il n'a plus rien. Même son corps, on va lui prendre. Et quand même, il dit, l'amour pour Hachem, je ne veux pas le perdre. Ça, c'est le Nisayon Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est un amour qu'on peut voir, et cet amour-là, on peut le voir que quand on est éprouvé, Rabotai. Que quand on est éprouvé. Donc, en vérité, un Nisayon, c'est quoi ? C'est une chance.
Hein ?
C'est très, très dur. C'est très, très dur, mais c'est ça qui te fait grandir. Il n'y a que ça qui peut te faire grandir, vraiment. Alors c'est sûr.
Hein ? De savoir aussi qui tu es. Ce repère.
Ouais, ça te donne des repères. En vérité, le Nisayon, il fait en sorte que l'amour que tu as pour Akadosh Baruch Hu, ça devient ta nature. Tu avais une nature qui est influencée par tous les repères dans lesquels tu as grandi, dans lesquels tu as vécu. Toute notre essence même, il vient de notre vécu, de là où on est né, de ce qu'on a écouté, la musique pourrie qu'on s'est mise dans les oreilles. Donc on arrive, on a notre vécu, on a notre passé. Celui-là maintenant, il a grandi, il est né à Mea Sharim, ou à Ramot, à la Yeshiva, il n'a pas le même vécu que toi, l'Aziz. Lui, son mariage, il va pas être le même que toi. Ses enfants ne vont pas être éduqués comme les tiens. D'accord ? Mais Hachem, il va pas regarder qui lui il est maintenant, qui toi tu es maintenant. Il va regarder qui lui il était et ce qu'il est devenu. Il va regarder qui toi tu étais et ce que tu es devenu. Et comment tu deviens ce que tu deviens à travers les épreuves. Lui, il aura les siennes, toi tu auras les tiennes. Toi tu auras les tiennes de Baal Tshuva, lui il aura les siennes de religieux de naissance. Qui sont parfois bien plus dures. Parce qu'en religieux de naissance, je vous mets juste comme ça pour vous habituer. Si Bezrat Hachem, vous serez des religieux, bien comme il faut, vous allez faire des enfants religieux. Pour vous préparer aux épreuves que vous aurez avec vos enfants. Parce qu'un Baal Tshuva, il a fait Tshuva parce qu'il est conscient pourquoi il a fait Tshuva. Mais un religieux qui vient de naître religieux, il sait pas c'est quoi l'autre monde. Maintenant, l'autre monde, il le voit tout feu clignotant en face. Viens t'éclater, l'Aziz. Viens t'éclater. Et il voit tout le monde là-bas qui est en train de rigoler. Et lui, il vient à la yeshiva. Elle est où l'éclatade? Or, ça c'est son Nisayon à lui. Le Baal Tshuva, dès qu'il a ce Nisayon, il sait qu'il est plus Baal Tshuva. Ça y est, c'est bon, tu fais partie du bon monde. Dès qu'il ressent ce Nisayon, c'est que c'est bon. Tant qu'il n'a pas, il est tout feu, tout flamme, il est machin, il n'a pas besoin. Il a compris, il a très bien compris pourquoi il est ici. Maintenant, il faut que le Nisayon, il fasse ressortir l'amour que tu as pour Hachem comme étant une seconde nature. C'est ça ta nature maintenant. C'est plus ce qui t'entoure, c'est plus ton contexte, c'est plus tes repères, c'est plus ton vécu. Ta nature, c'est ce que tu aimes, Hachem. C'est que tu aimes, Hachem. Non, regardez Rabotai. Comment on s'en sort dans un Nisayon? Vous croyez qu'Avraham Avinu pouvait s'en sortir d'un Nisayon pareil? Regardez bien, c'est quoi le travail à faire dans un Nisayon? Le travail à faire dans un Nisayon, c'est de dire à Hachem, je comprends rien. Je ne comprends rien.
Tout ça, t'as assez vite chemin.
Mais je me mets dans tes mains. Du coup, je m'annule face à ta volonté. Et c'est toi qui fais. Moi, je peux pas surmonter ça. C'est toi qui vas me faire surmonter parce que je suis incapable. Donc je m'annule. Voilà, je n'existe plus, Bechavod. C'est toi qui fais. À ce moment-là, Hachem, il te donne les kochot pour t'aider. Comme c'est marqué, qu'Avraham Avinu, quand il a fait la Brit Mila. Avraham Avinu, est-ce que vous imaginez, ça a 100 ans, d'accord, l'Aziz, on te dit tu prends un silex, ou même un couteau, ou même un ismel, et on va te dire tu vas faire à toi-même, tout seul, vas-y. Il n'y a pas d'anesthésie à l'époque, d'accord? Ça n'existe pas.
Le soleil qui tape.
Hein? Oui, mais une fois que tu es anesthésié, comment tu fais? D'accord? Donc ça... Tu peux pas. Et c'est marqué quoi? Qu'Avraham Avinu, il a commencé, et à cause de la douleur, il n'arrivait plus. C'est pas que maintenant, il voulait pas, il veut. Mais il y a des règles dans le corps, d'accord? Que quand tu te mords la main, ton cerveau, il ordonne d'ouvrir la bouche. Et tu as beau dire, je me mords quand même le doigt, je vais le couper, ton cerveau, il leur donne autre chose. C'est des règles naturelles du corps. À ce moment-là, ils nous disent, à ce moment-là, vu qu'il a fait le premier pas, et qu'il s'est remis entièrement dans les mains d'Hachem, même s'il savait qu'il n'arriverait pas, c'est Hachem qui a poussé le bras pour qu'il termine la mila. D'accord? C'est un ange, il est venu, chac, il a poussé. Ok? Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est si on a conscience qu'on ne dépend que d'Hachem. Alors écoutez bien ça. C'est joli. C'est pas de moi, mais c'est très joli. Comment on écrit le mot Nisayon? Une épreuve. Nun Samer, Yud, Vav, Nun Sofit. D'accord? Nisayon. Nisayon, il est composé de deux mots. Du mot Nes et du mot Yon. Comment ça se lit Yon?
Yavan,
grec. La Grèce. La Grèce, c'est quoi, Rabotai? c'est ceux qui croient qu'ils s'en sortent que par eux-mêmes. La force. Pourquoi on a fait la guerre contre les Grecs? Parce qu'ils voulaient nous imposer leur manière de réfléchir à l'époque de Hanouka, leur manière de penser. Que si tu n'es pas beau, fort et riche, tu ne vaux rien. Tu t'en sors que par toi-même. C'est ta force. Hachem, il n'existe pas. Il n'est pas là. Il a créé le monde et il est parti. Comme ça, ils pensaient les Grecs. Il a laissé le monde tel qu'il est. Maintenant, c'est à nous de le faire grandir, le monde. C'est par notre puissance. C'est nous qui allons nous en sortir. Si tu crois que quand tu as une épreuve, tu peux t'en sortir par toi-même, alors tu es un Grec. Mais si tu crois que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même et tu te remets dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a un S. C'est toi qui choisis. Dans le Nisayon, c'est toi qui choisis. Ou tu choisis le Nes, ou tu choisis le Yavan. C'est toi qui décides. Et du coup, si tu as choisi le Nes, tu vas avoir un miracle qui va t'aider. Alors toi aussi, tu seras un Nes, tu seras un étendard. Toi aussi, tu seras ce drapeau sur lequel tout le monde va s'identifier à toi. Sheniske Be'ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, on ne veut pas des preuves, d'accord, dans la vie. On n'en demande pas. Mais quand il nous les enverra, alors il nous donne la force, parce que tout ne dépend que de lui, de nous en sortir pour pouvoir avoir ce mérite de surmonter les nishyonot, pour avancer à notre niveau le plus haut, le plus élevé, dans lequel on aurait pu, lequel on aurait pu atteindre, et qui, sans le nisayon, on n'aurait jamais pu arriver à ce niveau.